commandant Piraji pensa à de l'argent. Il trouva qu'il y avait dans cette demande quelque chose de décevant, décevant parce que la noblesse de cette femme défiait la charité, mais il était résolu à lui donner ce qu'il pouvait. Tandis qu'il essayait de se rappeler combien il avait en liquide dans son appartement, elle rompit le silence, et ce ne fut pas pour demander quoi que ce soit, mais pour raconter. Elle retraça en détail sa traversée de 2004 à bord du Vittoria. Elle parla, parce qu'avant de demander quoi que ce fût, il fallait faire renaître les ombres. Tout commençait à Beyrouth. Une fois son voyage payé, il avait fallu attendre que le bateau soit prêt. Les passeurs lui avaient dit qu'ils la recontacteraient et l'avaient laissée à la ville. Elle avait erré dans ces rues inconnues des journées entières pour tuer le temps. La faim et la fatigue la tenaient, mais elle se concentrait sur son départ imminent et sur son fils, un petit garçon de 11 mois qui pleurait dans la chaleur de ses jours sans fin. Combien de temps avait duré cette attente? Elle ne s'en souvenait plus. Il lui semblait que les heures passaient avec la lenteur des montagnes qui s'étirent. Et puis un soir, enfin, elle fut amenée jusqu'au bateau. Une petite camionnette la déposa à l'extrémité d'un grand port de marchandises. Des groupes d'hommes attendaient sur le quai. Elle s'approcha. Le bateau lui sembla énorme. C'était une haute silhouette immobile, et cette taille imposante la rassura. Elle se dit que les passeurs avec qui elle avait traité devaient être sérieux et accoutumés à ces traversées s'ils possédaient de tels bateaux. On la fit attendre sur le quai au pied du monstre endormi. Les camionnettes ne cessaient d'arriver, il en venait de partout, déposant leur chargement humain et repartant dans la nuit. La foule croissait sans cesse, tant de gens, tant de silhouettes peureuses qui convergeaient vers ce quai. Des jeunes hommes, pour la plupart, n'ayant pour seule richesse qu'une veste jetée sur le dos. Elle aperçut également quelques familles et d'autres enfants comme le sien, mitouflés dans de vieilles couvertures. Cela aussi la rassura. Elle n'était pas la seule mère. Elle trouverait de l'aide si elle en avait besoin. Tout le monde parlait à voix basse. Les passeurs avaient donné des ordres, il fallait se taire. Mais dans l'excitation du départ, les hommes ne pouvaient s'empêcher de murmurer. Des langues inconnues bruissaient dans la foule. Il y avait là de tout, des Irakiens, des Afghans, des Iraniens, des Kurdes, des Somalis, tous impatients, tous possédés par un étrange mélange de joie et d'inquiétude. L'équipage était constitué d'une dizaine d'hommes silencieux et pressés. Ce sont eux qui donnèrent le signal de l'embarquement. Les centaines d'ombres confluèrent alors vers la petite passerelle et le bateau s'ouvrit. Elle fut une des premières à embarquer. Elle s'installa sur le pont contre la rambarde et observa le lent chargement de ceux qui la suivaient. Ils ne tardèrent pas à être serrés les uns contre les autres. Le bateau ne semblait plus aussi vaste que lorsqu'elle était sur le quai. C'était maintenant un pont étroit piétiné par des centaines d'hommes et de femmes. Elle tenta de garder un peu de place pour son bébé, mais les corps autour d'elle la pressaient sans cesse davantage. Cette incommodité ne la fit pas flancher. Elle se dit que cela ne durerait qu'une nuit ou deux, que ce temps-là n'était rien dans une vie, qu'elle se souviendrait bientôt de cette traversée comme d'une incroyable épopée. Qu'elle en parlerait en souriant lorsqu'elle serait installée de l'autre côté, à Rome, à Paris ou à Londres, et que tout serait accompli. Ils levèrent l'ancre au milieu de la nuit. La mer était calme. Les hommes, en sentant la carcasse du navire s'ébranler, reprirent courage. Ils partaient enfin. Le compte à rebours était enclenché. Dans quelques heures, 24 ou 48 au pire, il foulerait le sol d'Europe. La vie allait enfin commencer. On rigolait à bord, certains chantèrent les chants de leur pays. Elle ne se souvenait plus avec précision de cette première nuit sur le navire, ni de la journée qui suivit. Il faisait chaud, ils étaient trop serrés, elle avait faim, son bébé pleurait. Mais ce n'était pas ce qui comptait. Elle se serait sentie capable de tenir des jours entiers ainsi. Le nouveau continent était au bout. Et la promesse qu'elle avait faite à son enfant de l'élever là-bas était à portée de main. Elle aurait tenu vaille que vaille pourvu qu'elle ait pu se raccrocher à l'idée qu'il se rapprochait, qu'il ne cessait minute après minute de se rapprocher. Mais il y eut ses cris poussés à l'aube du deuxième jour. ces cris qui renversèrent tout et marquèrent le début du second voyage. De celui-là, elle se rappelait chaque instant. Depuis 2 ans, elle le revivait sans cesse à chacune de ses nuits. De celui-là, elle n'était jamais revenue. Les cris avaient été poussés par 2 jeunes Somalis. Ils s'étaient réveillés avant les autres et donnèrent l'alarme. L'équipage avait disparu. Ils avaient profité de la nuit pour abandonner le navire à l'aide de l'unique canot de sauvetage. La panique s'empara très vite du bateau. Personne ne savait piloter pareil navire, personne ne savait non plus où l'on se trouvait, à quelle distance, de quel côté. Ils se rendirent compte avec désespoir qu'il n'y avait pas de réserve d'eau ni de nourriture, que la radio ne marchait pas. Ils étaient pris au piège, encerclés par l'immensité de la mer, dérivant avec la lenteur de l'agonie. Un temps infini pouvait passer avant qu'un autre bateau ne les croise. Les visages d'un coup se fermèrent. On savait que si l'errance se prolongeait, la mort serait monstrueuse. Elle les assoifferait, elle les éteindrait, elle les rendrait fous à se ruer les uns contre les autres. Tout était devenu lent et cruel. Certains se lamentaient, d'autres suppliaient leur Dieu. Les bébés ne cessaient de pleurer, les mères n'avaient plus d'eau, plus de force. Plus les heures passaient et plus les cris d'enfants faiblissaient d'intensité par épuisement jusqu'à cesser tout à fait. Les esprits sombrèrent dans une épaisse léthargie. Quelques bagarres éclatèrent, mais les corps étaient trop faibles pour s'affronter. Bientôt, ce ne fut plus que silence. Le premier mort fut un Irakien d'une 20aine d'années. D'abord, personne ne sut que faire, puis les hommes décidèrent qu'il fallait jeter les corps à la mer pour faire de la place et éviter tout risque d'épidémie. Bientôt, ces corps plongés à l'eau furent de plus en plus nombreux. Ils passaient par-dessus bord les uns après les autres, et chacun se demandait s'il ne serait pas le prochain. Elle serrait de plus en plus fortement son enfant dans ses bras, mais il semblait ne plus rien faire d'autre que dormir. Une femme à côté d'elle lui tendit une bouteille dans laquelle il restait quelques gouttes d'eau. Elle essaya de faire boire le nourrisson, mais il ne réagit pas. Elle lui mouilla les lèvres, mais les gouttes coulèrent le long de son menton. Elle sentait qu'il partait, qu'il fallait qu'elle se batte, bec et ongles. Elle l'appela, le secoua, lui tapota les joues. Il finit par râler, distinctement. Un petit râle d'enfant. Elle n'entendait plus que cela. Au-dessus du brouhaha des hommes et du bruissement des vagues, le petit souffle rauque de son enfant lui faisait trembler les lèvres. Elle supplia, elle gémit. Les heures passèrent, toutes identiques, sans bateau à l'horizon, sans retour providentiel de l'équipage. Rien. La révolution lente et répétée du soleil les torturait, et la soif les faisait halluciner. Elle était incapable de dire quand il était mort. Elle était restée dans la même position pendant des heures, lui chantant des comptines, l'appelant par son nom, lui jurant qu'il s'en sortirait. Puis les gens qui l'entouraient lui avaient tapé sur l'épaule. Elle avait vu dans leur regard ce qu'ils pensaient. Elle avait hurlé de la laisser tranquille, de ne pas l'approcher, qu'elle allait le réveiller. Plus tard, ils avaient essayé à nouveau, répétant qu'il ne fallait pas garder de mort sur le bateau. De quoi parlait-il? Ce n'était pas un mort qu'elle tenait dans ses bras, c'était son enfant. Elle ne comprenait pas. Et puis 2 hommes étaient venus et l'avaient forcé. Ils l'avaient obligée à desserrer son emprise. Elle se défendit. Elle cracha et mordit. Mais ils étaient plus forts qu'elle. Ils réussirent à lui prendre l'enfant et sans un mot le jetèrent par-dessus bord. Elle se souvenait encore du bruit horrible de ce corps aimé, embrassé, touchant l'eau. Son esprit assommé ne pensa plus rien. La fatigue l'envahit. À partir de cet instant, elle renonça. Elle se laissa glisser dans un coin, s'agrippa à la rambarde et ne bougea plus. Elle n'était plus consciente de rien, elle dérivait avec le navire. Elle mourait, comme tant d'autres autour d'elle, et leur souffle fatigué s'unissait dans un grand râle continu. Ils dérivèrent jusqu'à la troisième nuit. La frégate italienne les intercepta à quelques kilomètres de la côte des Pouilles. Au départ de Beyrouth, il y avait plus de 500 passagers à bord, seuls 386 survécurent, dont elle. Sans savoir pourquoi. Elle qui n'était ni plus forte, ni plus volontaire que les autres. Elle à qui aurait semblé juste et nécessaire de mourir après l'agonie de son enfant. Elle qui ne voulait pas lâcher la rambarde parce que se lever, c'était quitter son enfant et elle ne le pouvait pas. Elle raconta tout cela avec lenteur et précision, pleurant parfois, tant le souvenir de ces heures était encore vif en elle. Le commandant Piracci ignorait que la femme eût un enfant, mais en d'autres occasions, sur d'autres mers, il avait dû, parfois, arracher des nourrissons inertes à leur mère. Il connaissait ces histoires de mort lente, de rêves brisés. Pourtant, le récit de cette femme le bouleversa. Il repensa à cette destinée saccagée, à la laideur des hommes. Il essaya de mesurer la colère qu'il devait y avoir en elle, et il sentit qu'elle était au-delà de toute mesure, et pourtant, durant tout son récit, elle ne s'était pas départie de la pleine dignité de ceux que la vie gifle sans raison et qui restent debout. Il repensa à l'argent qu'il avait dans un des livres de sa bibliothèque et il lui demanda « Que voulez-vous ?» Il lui posa la question avec douceur pour lui faire comprendre qu'elle pouvait demander davantage que ce qu'elle avait peut-être d'abord envisagé de faire. Il était bouleversé et il était prêt à donner autant qu'il pouvait. Elle le regarda droit dans les yeux et sa réponse le laissa stupéfait. Elle lui dit avec une voix posée « Je voudrais que vous me donniez une arme. » Une arme ?